Bonjour Richard. Donc on va commencer en fait par quelques questions personnelles. Donc aujourd'hui tu es à Paris. Je crois que la semaine dernière tu étais à Porto Alegre.
Non,
Oui.
la semaine prochaine.
La semaine prochaine tu vas à Porto Alegre. Donc la première question en fait, est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ta façon de vivre, donc tes occupations professionnelles et aussi tes loisirs?
Façon de vivre, c'est trop grand. Cette question est trop grande, je ne sais pas
Ben, en gros,
répondre, mais je voyage entre la moitié et 2 tiers du temps. Et quand je voyage, je vis selon les circonstances, je ne sais pas quoi dire. Mes loisirs, c'est pour la plupart lire, mais aussi manger, parfois écouter la musique.
Mais en fait, tu travailles beaucoup dans la
Oui.
journée. Principalement, tu fais que travailler.
Non,
Non?
normalement, dans chaque jour, je lis pour quelques heures.
Dans le même ordre d'idée, tu as souvent expliqué que ton implication dans le projet, dans le mouvement du logiciel libre, faisait que tu avais renoncé à un certain nombre de choses dans la mode de vie de l'Américain moyen, comme par exemple les enfants, avoir une maison, etc. Avec les différents prix que tu as reçus.
Mais
Oui.
quant aux enfants, il ne s'agit pas de renoncer parce que je n'ai aucune envie.
Tu n'as aucune envie de renoncer aux enfants?
Non, d'enfants.
Ah, tu n'as aucune envie d'enfants. Parce que la question, en fait, c'est...
C'est, pour moi, il paraît tout à fait dégueulasse d'avoir des enfants. Ne pas pouvoir dormir, ne pas, il faut dépenser tout le temps pour ramasser de l'argent pour. Dégueulasse, on n'a pas même le temps dans la journée de voir les enfants.
D'accord. Donc tu penses en fait que...
Si on a envie de voir les enfants.
D'accord. Donc tu penses en fait que le fait d'avoir des enfants serait une limitation à ton activité dans le mouvement du logiciel libre.
Oui, mais s'il n'était pas cette activité, ce
Une
serait
autre.
quelque activité. C'est une limitation dans la vie et je n'ai pas envie d'être lié comme ça à n'importe quoi, sauf peut-être le mouvement de logiciels libres qui vaut la peine.
L'argent que tu as reçu aurait pu te permettre éventuellement de changer,
Non,
non?
non, je crois que non, je n'essaie pas de gagner assez d'argent pour les choses dont je n'ai pas envie. Je ne serais pas contre avoir une voiture. Une maison, je n'ai pas envie, mais un appartement, si. Je n'ai pas envie d'une maison parce que ceux qui possèdent une maison à Boston apprennent à détester la neige.
La
Parce
neige.
qu'ils doivent
Ah oui.
nettoyer les chemins. Et pour ça, il déteste la neige ou
La neige.
la neige.
Ouais.
Et moi, j'aime la neige et je ne veux pas changer cette émotion.
Et où vis-tu à Boston alors?
À Cambridge.
Cambridge, mais dans un appartement...
Je loue une chambre dans une maison.
En France, tu définis souvent le logiciel libre par liberté, égalité, fraternité. Est-ce que tu mettrais une notion plus en avant qu'une autre dans ces trois notions de liberté, égalité, fraternité?
Liberté.
Liberté?
Oh, surtout parce que les deux autres suivent comme conséquence de la liberté offerte à tous.
On va passer à quelques questions plus sur l'utilisation que tu fais de l'informatique. Quelle distribution GNU Linux utilises-tu?
Debian.
Debian. Quel navigateur web utilises-tu?
Je n'utilise pas.
Tu n'utilises pas?
Non.
Pour quelle raison?
C'est une pénitence personnelle que je ne veux pas décrire plus que ça, mais pour ça, je navigue pas. Mais j'ai deux. Sauf dans le site de GNU. Et pour faire ça, si je veux, ou si je veux convertir un fichier HTML pour le regarder, je possède Lynx et Mozilla.
D'accord.
Quel gestionnaire de fenêtres utilises-tu?
Normalement, aucun.
Aucun.
Parce que je préfère le mode de texte.
La conception d'un ordinateur de façon globale fait appel à des connaissances en physique et en électronique. As-tu des connaissances dans ce domaine-là?
À quelques points, parce que j'ai étudié la physique à l'école et j'ai appris par lire les livres de l'électronique.
D'accord.
Donc, à un certain point, mais je ne pouvais pas concevoir un ordinateur pratique.
Donc, tu es avant tout programmeur. En tant que programmeur, quel est ton langage préféré ou la classe de langage préférée?
J'aime bien le Lisp, mais aussi le langage C. Pour les choses qui doivent marcher rapidement, je préfère C. Où il n'y a pas besoin de toute vitesse, je préfère Lisp, le langage le plus puissant.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des langages que tu connais mais que tu n'aimes pas pour une raison précise?
C++ est très laid. Beaucoup d'erreurs de conception dans ce langage. Je n'ai pas appris les langages récents parce que je n'ai pas le besoin ni le temps, ni beaucoup, beaucoup d'intérêt. Si j'avais beaucoup de temps, bien sûr, je voudrais les apprendre. Dans cette classe, j'inclus Java, Perl, Python. Je n'ai pas appris.
D'ailleurs, quel est ton avis sur Java?
Je n'ai pas beaucoup d'opinion parce que je ne connais pas ce langage.
Mais
De base, c'est évident qu'il est moins puissant que Lisp. Mais dans sa classe de langage, peut-être c'est bon. Comme langage dont les fonctionnalités sont limitées à celles qui peuvent être compilées, sont les fonctions read, eval et print. Peut-être Java est bon.
Et que penses-tu de la stratégie de Sun par rapport à Java?
Je déteste la stratégie de Sun parce que ce logiciel n'est pas libre et ce n'est pas éthique. Pour ça, je ne le juge pas comme stratégie par réussite ou faillite. Je le juge de façon morale, et c'est immoral.
Et certaines personnes dans le monde Java pensent que Sun va changer de stratégie pour un jour, entre guillemets, libérer Java. Qu'en penses-tu?
Je ne sais
Tu ne
pas,
sais pas.
je ne vois pas l'avenir. Je ne peux que juger les actions visibles.
On va passer à un autre type
Mais
de.
j'espère que oui.
Oui.
Si Sun vraiment libérer l'implémentation de Java et les librairies de classe de Java, ce serait un jour de.
Un grand jour.
Un grand jour, ça se dit.
Oui.
Un jour de célébration, oui. Mais elle ne l'a pas fait.
Et est-ce qu'il y a des discussions entre toi ou la FSF et
Non,
Sun? Non.
non. Ceux qui travaillent au sujet de Java dans Sun connaissent bien la question. Connaissent bien la
Connaissent
question.
bien.
Depuis plusieurs années, ils s'obstinent contre le changement et s'ils vont un jour finalement changer, personne ne sait.
Donc, on va passer à quelques questions sur la GPL notamment. Alors, la première, c'est la section 2C de la GNU-GPL fait référence à l'obligation d'afficher à l'exécution du programme un texte informatif. Est-ce qu'un bouton About dans une application de type X-Window System correspond à cette obligation de la section 2C de la GNU-GPL?
Oui.
Oui.
C'est une manière d'afficher ces informations au lancement du programme.
D'accord. La deuxième question est peut-être une question un peu provocante, mais c'est dans le domaine de la documentation libre, la FDL. La question, en fait, est-ce que la FDL est sous FDL? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible...
Non, bien sûr que non.
Alors, justement, la question qui est posée, c'est en fait, c'est que... ça semble apparemment, en tout cas, en contradiction avec la liberté que prône
pas
la FSF,
tout. Non? Parce que nous recommandons la FDL pour les manuels techniques, pour les, pas pour les contrats, pas pour les licences, pas pour les constats personnels, pas pour les... Pour, il y a des genres d'œuvres selon leur utilisation, selon leur but. Pour les œuvres destinées à, à faire un travail pratique, comme apprendre quelque chose, ces documents doivent être libres, mais pour une licence comme... Une licence dit les intentions de quelqu'un. Et les intentions de quelqu'un ne doivent pas être modifiées par quelqu'un d'autre.
Ce qui explique le fait que pour tes textes, par exemple, ils ne sont pas sous GFDL,
pour
mais
les textes
sous copie verbatim.
Sur les questions politiques ou philosophique, non, mais les manuels techniques, oui.
D'accord, c'est clair. Tu as lancé le projet GNU en 1984, donc en 2004, c'est les 20 ans. Est-ce qu'il est prévu une sorte d'anniversaire pour fêter les 20 ans?
Non, mais peut-être ce serait une bonne idée. Est-ce que tu peux me promettre de ne pas l'oublier?
Je te promets de ne pas l'oublier. On y reparlera dans 3 ans.
Parce que il faut penser à cette question peut-être
bien en avance.
9 mois
oui.
En avance.
D'accord.
Parce que ce serait en janvier. Parce que j'ai lancé le... moi, j'ai commencé le travail en janvier 84. Mais j'ai proposé le projet quelques mois avant. Donc, quel anniversaire?
Mais quelle est la date pour toi du lancement du projet GNU? Est-ce que c'est le...
Pour moi, je pense normalement au jour où j'ai vraiment commencé le travail. Pas le jour où j'ai publié l'annonce. Donc, c'est en janvier.
84.
Oui.
D'accord. Alors... Est-il possible de faire, c'est une question à nouveau sur la GPL, est-il possible de faire des modifications que l'on ne distribue pas à un logiciel GPL, c'est-à-dire un logiciel qu'on va utiliser à l'usage privé, sans contrevenir à la GNU-GPL?
Bien sûr.
Alors, par extension...
C'est un des droits de l'utilisateur défendu par le mouvement. Parce que le droit de faire des changements pour votre utilisation personnelle ou le droit de le faire dans une entreprise pour l'utilisation dans l'entreprise, sans jamais diffuser les changements. C'est un des droits dans la liste des droits essentiels pour le logiciel libre.
Mais justement, cette notion d'usage privé n'a-t-elle pas changé un petit peu par rapport à la date d'écriture de la GNU-GPL? Je pense par exemple aux ASP,
Application Service Providers.
Mais selon mon opinion, ce n'est pas une utilisation privée.
D'accord.
C'est l'utilisation par le public. Donc nous cherchons à une manière de changer la GPL pour imposer aux ASP l'obligation d'offrir le code source aux utilisateurs de leurs services.
Et ça, ce sera par exemple une des modifications incluses dans la GPL version 3.
Peut-être.
Peut-être. Est-ce que d'ailleurs cette GPL version 3, la date de sortie ou est planifiée?
Non.
Non.
Ce serait idiot. On publie quelque chose, une œuvre, quand il est prêt.
Mais le travail sur cette version a déjà commencé depuis longtemps.
Oui, oui, oui.
Oui, d'accord.
Et maintenant, notre avocat pense à comment écrire cette condition. Mais ce n'est pas évident. C'est un travail difficile parce que personne ne l'a fait. Et il n'est pas évident si les lois de droit d'auteur supportent une telle condition.
L'un des rôles de la FSF est de défendre le logiciel libre d'un point de vue juridique. Et une des questions qui est posée, si Microsoft prenait le code source d'un logiciel sous GNU GPL et le modifier pour en faire une version propriétaire, la FSF pourrait-elle aider le développeur à faire respecter ses droits dans ce cadre-là? Aurait-elle les moyens?
Si la FSF était le développeur,
oui.
Je pense que oui, parce que nous aurions la possibilité de gagner beaucoup, beaucoup d'argent dédommagement.
Oui.
Et nous possédons de l'argent pour payer des avocats, oui.
Donc tu penses que la FSF pourrait défendre ses droits face à quelqu'un comme Microsoft?
Si la FSF est le détenteur du droit d'auteur, parce que c'est le détenteur qui doit le faire, les autres ne peuvent pas le faire.
Et si un auteur de logiciel libre vient voir la FSF pour lui demander de l'aide dans une démarche similaire?
Dans un tel cas, nous essayons d'aider, mais pas avec grande quantité d'argent. Nous pouvons défendre le droit d'auteur et donc les conditions, les obligations de la GPL pour un programme si quelqu'un nous l'a donné d'avance. Nous ne pouvons pas accepter l'obligation de défendre ces conditions pour tout le logiciel libre du monde parce que c'est trop. Un développeur doit décider d'avance s'il veut le faire lui-même ou le donner à l'FSF pour le faire. Et s'il le donne à l'FSF pour le faire, il y a des préparations que nous faisons pour pouvoir plus facilement le faire.
Justement, on parle de la FSF. Pour beaucoup de gens, la FSF et RMS, c'est la même chose. Est-ce que tu pourrais un peu décrire le fonctionnement actuel de la FSF?
Je ne sais pas le dire de manière... de façon simple, parce que il y a beaucoup d'activités. Mais il y a la publication des livres, il y a les gens qui travaillent dans la vente des livres.
Oui.
Il y a aussi l'entretien des serveurs pour la distribution de logiciels et des pages. Aussi, depuis une semaine, je crois, nous avons un serveur de commerce électronique pour vendre les livres et pour accepter les donations. Aussi, une activité d'écrire des manuels où il y a des manques dans la documentation libre du système. Et maintenant, est-ce que nous payons des programmeurs? Je ne sais pas si nous payons des programmeurs maintenant. Il y avait quelqu'un qui travaillait sur Emacs. Mais il est parti depuis quelques mois. Il n'aimait pas travailler chez lui. D'accord. Comme il devait faire pour Emacs. C'est très triste. De l'avoir perdu.
Et dans la définition de la stratégie de la FSF, est-ce que tu es le seul impliqué ou est-ce qu'il y a d'autres personnes?
Moi, je décide normalement la stratégie, mais il y a des autres que je consulte parce que j'ai besoin de leurs opinions.
Bon, on va passer à deux petites questions sur le libre et le grand public. Donc, la première, c'est en France, il y a une publicité d'IBM à la télévision qui met en valeur le système Linux, le noyau Linux, mais je précise bien qu'il parle de Linux. Est-ce que tu penses que c'est un signe que tu as perdu la bataille du GNU, du préfixe GNU?
Non, non, parce que il y a des gens qui pensent à voir une décision de 0 ou 1, qui pensent qu'il y a un nom de système, que ce nom doit être l'un ou l'autre, que je dois soit gagner, soit perdre cette question. Mais c'est une erreur parce que il y a des gens qui appellent le système GNU et Linux, il y a des gens qui appellent le système Linux tout court, bien que c'est incorrect. Les gens qui font l'erreur, qui diffusent l'erreur, sont les majoritaires, bien sûr, comme ils étaient toujours. Mais il y en a qui diffusent la correction. Et je ne crois pas que la fraction diminue.
D'accord.
Et parfois je convainc un autre et j'essaie avec des autres. Donc l'idée n'est pas perdue.
Alors justement, en parlant d'IBM, même si IBM ne parle pas de GNU, que penses-tu de l'implication d'IBM dans le monde du libre, à la fois d'un point de vue purement, je dirais, pour le libre, mais aussi pour le grand public, IBM qui investit beaucoup.
IBM nous aide de quelque façon, mais aussi fait des choses nuisibles, oui, comme le développement du logiciel propriétaire. Donc, les deux.
Et est-ce que tu penses que, pour le grand public, il est important qu'un grand de l'industrie comme IBM mette en avant le libre dans ses publicités?
Elles peuvent nous aider comme ça. Nous n'avons pas besoin essentiel de leur aide. Donc, il faut éviter l'erreur de supposer que nous sommes désespérément dépendants des décisions des grandes entreprises. C'est une erreur qui amène les gens à dépendre des décisions des grandes entreprises, de se penser des clients, qui amène à la perte d'indépendance. Il faut à tout prix éviter ce chemin. Nous pouvons inviter l'aide des grandes entreprises, nous pouvons offrir, nous pouvons leur offrir la coopération, mais nous devons rester prêts à poursuivre notre chemin sans elles.
On pourrait dire que de nombreuses personnes découvrent l'informatique par l'informatique dans leur entreprise. Or, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment
non,
de...
chez eux.
Oui, mais...
Normalement, c'est chez eux.
Normalement, mais beaucoup, en fait, trouvent important d'avoir le même système qu'ils ont chez eux que dans l'entreprise. Or, aujourd'hui, il n'y a relativement pas de système libre utilisable par des non-initiés. Est-ce que tu penses qu'un jour ou l'autre, des systèmes libres seront utilisables par des non-initiés?
J'espère, c'est la raison d'être de GNOME. Rendre les systèmes faciles à utiliser pour les gens qui ne sont pas informaticiens.
Et question, est-ce qu'un jour, Emacs pourra être utilisable par un non-initié?
C'est déjà utilisable.
C'est déjà utilisable?
Oui.
D'accord.
Et ce n'est pas seulement une supposition.
En France, un groupe de travail a été mis en place. Enfin, des gens ont décidé de demander à l'UNESCO le classement des logiciels libres comme patrimoine mondial de l'humanité.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors, c'est une sorte de reconnaissance officielle de l'UNESCO, qui est une organisation internationale, que quelque chose fait partie du patrimoine mondial et donc doit être protégé, comme par exemple des statues.
Protéger des brevets informatiques.
Protéger de tout, voilà. Protéger de l'appropriation en général. Que penses-tu de cette initiative?
Comme idée générale, ça me paraît correct. C'est vraiment une patrimonie humaine. Décision juridique, je devrais regarder les implications exactes avant de rendre une opinion. Parce que dans les détails, il pourrait y avoir des problèmes ou non. C'est une question de détails. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire exactement. Parce que si c'est une idée générale, pas de problème. Si c'est une décision juridique avec des conséquences spécifiques, il faut regarder ces conséquences.
Donc la question était en fait de savoir si tu penses que le noyau Erd aurait pu prendre la place actuelle qu'a le noyau Linux, si celui-ci, le noyau Erd, avait été conçu de façon monolithique.
Peut-être, qui sait. Mais ce que je sais est que le noyau Erd fonctionne maintenant. Il y a même un groupe d'utilisateurs de GNU Erd.
Tout à fait, mais l'un des problèmes de reconnaissance du projet GNU est le fait que le noyau Linux,
oui,
quelque
mais
part...
qui peut savoir quoi pourrait... qui pourrait avoir lieu si on a agi différemment. C'est impossible de savoir.
D'accord. Mais d'un point de vue technique, que réponds-tu à Linus quand il affirme que les micronoyaux sont à la fois moins performants et plus difficiles à concevoir?
Peut-être c'est vrai. Mais maintenant, la différence de performance ne signifie pas beaucoup, pas grand-chose. Et quant à la difficulté possible de la conception, peut-être c'était pour ça que c'était un grand travail, mais le travail est déjà fait. Donc cela n'empêche pas le Erd d'être intéressant à utiliser. Et il y a des fonctionnalités intéressantes qui sont conséquences de la conception de Erd.
Est-ce que toi, directement, tu as participé à la conception
non.
du Erd?
Non.
Non. Alors, il y a une question qui est concernant RTAI, qui est un programme qui est sous LGPL, mais qui a un problème avec les licences du FSM Labs concernant RT Linux. Et la question, c'est sur la position de la FSF par rapport à FSM Labs et l'aide que peut apporter la FSF à ses développeurs.
À quels développeurs?
Les développeurs qui utilisent RTAI. En fait, la position de la FSF par rapport à ça n'est pas très...
Nous ne pouvons rien faire pour... Ce que nous pouvions faire était d'utiliser le fait de ce que FSM Labs a diffusé une version modifiée de Linux qui est sous la GPL sous une licence de brevet. Et comme ça, nous pouvions leur montrer que la contradiction entre la GPL, la licence de Linux de base, et leur licence de brevet. Et comme ça, nous pouvions, je ne sais pas le dire.
Dis-le en anglais.
We were able to pressure them, show them the need, not exactly force, it's not as strong as force, but make them. Because it wasn't exact, we didn't use force, but we made it, we showed them that the situation required them. we use publicity, we use the concerns about legal action someday, and to make them respect the GPL.
Okay. C'est parce que... Si je répète cela en français, c'est nous n'avions pas de moyen de les forcer à prendre cette décision, et nous avons choisi de faire pression sur eux, à la fois en tentant de les convaincre, en leur montrant le besoin qu'il y avait pour eux
oui.
de respecter...
Nous avons fait une pression pour leur faire respecter la GPL dans leur licence de brevet. Mais nous n'avions aucune manière de leur faire rendre leur licence de brevet compatible avec la LGPL. Parce que cette entreprise n'avait pas envie de sortir une version modifiée d'un programme sous la LGPL. Donc la LGPL ne signifiait rien pour elle. Et aussi, elle avait une raison très importante pour ne pas le faire. Donc, ce aurait été beaucoup plus difficile beyond
au-delà
de notre moyen de pression. Ce aurait été quelque chose que nous n'aurions pas pu accomplir.
D'accord.
Parce que l'entreprise voulait interdire le développement de programmes propriétaires utilisant leur technique par des autres. Avec un programme sorti sous la GPL, cela ne permet pas le développement des programmes propriétaires parce que la GPL interdit qu'on prenne ce programme pour le mettre dans un programme propriétaire. Mais la LGPL le permet. Donc, pour l'entreprise FSM Labs, si elle a permis la sortie des programmes sous la LGPL, ça aurait été permettre aussi la sortie des programmes propriétaires utilisant cette technique. Et cela aurait été un recul si grand pour elle qu'elle aurait combattu très fort contre cette idée. Et nous n'avions pas le moyen de la faire céder tant.
D'accord.
Mais ce que nous avions obtenu était beaucoup plus facile. C'était pour ça que nous avons pu l'obtenir.
Tu t'es présenté à la Gnome Foundation dernièrement. Tu es en train de suivre le processus pour devenir développeur Debian. La suite, c'est quoi?
Je ne sais pas exactement. Je veux, dans un an, me présenter de nouveau comme candidat pour le conseil d'administration de la Fondation Gnome. Et peut-être avec un an de me connaître mieux, en lieu des mythes qui m'entourent, peut-être je puis gagner cette fois.
Alors, tu penses que le rejet de ta candidature est lié aux mythes?
Oui, parce qu'il y a des mythes qu'on peut voir, qui circulent. Mais et parmi les mythes, il y a l'idée de ce que je suis le pire diplomate du monde et que c'est impossible de discuter les choses avec moi. Mais j'ai montré avec mes messages dans la discussion que la vérité est le contraire. Et comme ça, je suppose que les gens, par même mes réponses aux attaques, sans contre-attaquer. Alors, en lieu de contre-attaquer, en lieu d'attaquer les gens qui m'attaquaient dans cette discussion, j'ai gardé le calme et j'ai expliqué les faits.
D'accord. En parlant justement de diplomatie, lors de ton dernier voyage à Paris, tu as rencontré Noël Mamère, donc candidat à l'élection présidentielle en France. Comment vois-tu ton influence sur le débat politique en période préélectorale et notamment sur le brevet logiciel? Penses-tu pouvoir avoir une influence à ce niveau-là?
Je ne sais pas. J'espère pouvoir changer le résultat sur les brevets informatiques. J'espère aider les gens en Europe qui se battent contre les brevets informatiques. Moi, je suis...
Tu n'es pas la principale personne à agir, tu es là comme soutien.
Oui, je suis un soutien.
Un soutien.
Gens d'Europe.
Pour les Européens, voilà. Mais justement, est-ce que tu as eu l'occasion dans d'autres pays européens de rencontrer des gens de la même posture, je dirais, enfin de la même position que Noël Mamère, c'est-à-dire candidat à des élections?
Je ne sais pas. Non.
Non. Les hommes politiques sont prêts à te rencontrer, on le voit bien en France.
En France, oui.
Mais pourquoi pas dans d'autres pays?
Dans les autres pays, je ne le vois pas. Je serais bien d'accord à le faire, mais il n'y a pas de demande.
Où est-ce que tu placerais la limite entre la liberté et la censure, au niveau FSF notamment?
L'FSF, c'est une organisation privée avec une but politique. Donc, juste comme Greenpeace ou la Ligue des droits de l'homme, nous décidons quoi dire. Nous. Pour les autres peuvent dire ce qu'ils veulent. Quand nous disons quelque chose, quand nous publions quelque chose, cet article, cette œuvre doit s'accorder à notre position. Mais les autres sont libres de dire le contraire.
Bon, ça répond à la question, en fait. Mais comment tu définirais, peut-être plus précisément, le but politique de la FSF?
Diffuser les libertés aux utilisateurs de logiciels.
Ok, c'est simple. On a une question qui est plus liée sur... je sais que ce n'est pas forcément le sujet que tu préfères, l'économie, mais quel est l'intérêt du logiciel... Enfin, quel est l'intérêt pour une société de services en informatique d'utiliser ou de développer des logiciels libres?
Le logiciel libre est utile pour ces entreprises parce qu'elles peuvent le changer. Ou elles ne peuvent pas changer le logiciel propriétaire. Elles devraient l'utiliser tel quel, ou pas du tout. Comme ça, les bienfaits pratiques de la liberté s'appliquent à ces entreprises juste comme à tout le monde. Le développement de logiciels libres, c'est un effet secondaire naturel de l'utilisation et de la modification de logiciels libres. Mais aussi, c'est un des intérêts des gens qui travaillent dans ces entreprises. Une telle entreprise peut facilement attirer les gens qui sont idéalistes pour le logiciel libre, par leur offrir la possibilité de chasser, rejeter le logiciel propriétaire. Mais ces gens désirent la possibilité de développer le logiciel libre aussi. Leur offrir cette possibilité est une des manières de les attirer à travailler pour elles.
Et est-ce que tu penses que la situation du logiciel libre ces dernières années s'est améliorée? Et est-ce que ça va continuer à s'améliorer?
Je ne sais pas, parce que la situation comprenne beaucoup de questions, beaucoup de détails, dans beaucoup de pays du monde. Et je ne passe pas le temps par surveiller les développements. Donc, je ne sais pas répondre. Il y a des changements que je vois. Il y a le danger de brevets informatiques, mais est-ce que ce danger est plus grand ou plus petit maintenant par rapport à il y a 2 ans, je ne sais pas. La décision en Europe peut-être s'approche, mais qu'est-ce que sera la décision? Je ne sais pas. Donc si c'est une amélioration ou une... qu'est-ce que c'est le...
Ou si cela empire la situation.
Ou un recul.
Un recul, je ne sais pas. Il y a, je suppose, une plus grande quantité d'utilisateurs. Je crois que les desktops comme GNOME s'améliorent et donc que le système est plus facile à utiliser pour les non-informaticiens. C'est une avance.
Une avancée.
Une avancée.
Oui.
Mais moi, je ne suis pas le progrès à ce niveau.
D'accord.
Je
assez près, ouais.
Fais attention et les décisions à prendre, pas les résultats.
Quand tu parlais des brevets logiciels, c'est clairement un changement juridique, en tout cas en Europe, qui serait un frein au logiciel libre.
Il y a un recul que je vois. La traité cybercrime, c'est vraiment...
C'est vraiment un recul.
C'est un recul, c'est une attaque aux libertés des citoyens européens. Mais parmi beaucoup d'attaques aux libertés, il y a un changement juridique qui s'applique au logiciel, qui interdit le logiciel comme DECSS. Donc c'est... un coup contre le logiciel libre.
Alors, là, on parle de lois qui sont des coups portés au logiciel libre. Dans le programme gouvernemental, enfin, du Parti Socialiste en France, pour la candidature à la présidentielle, certains voudraient mettre en place ce qu'ils appelleraient, je mets des guillemets, une loi Linux. C'est-à-dire une loi qui peut-être...
Je ne serais pas un supporteur d'une loi appelée... loi Linux.
Alors, même si elle s'appelait une loi GNU Linux ou autre, est-ce que tu penses que c'est une bonne solution?
Cela dépend des détails de cette loi. Est-ce que tu peux me décrire les détails?
Nous n'avons pas les détails, mais en fait, ce que j'aimerais en fait que tu dises, c'est que le but, ça pourrait être soit d'imposer des logiciels libres, par exemple, dans l'administration, soit plutôt d'imposer l'utilisation de standards ouverts, quel que soit le logiciel utilisé. Donc, par rapport à ces deux possibilités...
Ces deux idées sont des bonnes idées. L'une ou l'autre serait une amélioration. Mais ce dont nous avons le plus grand besoin, à l'égard des gouvernements, c'est de ne pas nous interdire par des brevets informatiques, par des lois interdisant les programmes libres pour tourner un disque vidéo.
Non.
D'abord, ne pas nous attaquer, puis peut-être nous aider.
Quelqu'un du monde du logiciel libre qui n'est pas forcément développeur, qui n'a pas de capacité, mais qui veut faire quelque chose, quelle est selon toi la priorité?
Il peut se joindre à la bataille contre les brevets informatiques en Europe.
C'est la priorité?
Oui.
Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à destination des gens du libre, de la communauté francophone?
Si quelqu'un veut faire un tout petit travail pour nous aider, le plus petit travail qui peut nous aider, c'est d'appeler le système GNU et Linux. Si l'on est prêt à faire un plus grand travail, on peut lutter contre les brevets informatiques.
D'accord. Merci Richard.